Merci d'être avec nous à l'écoute de RFI. Il est maintenant 8h à Washington et Port-au-Prince, 13h temps universel, 14h ici à Paris.
RFI Midi. Charlotte Hydrac.
Un Américain à Paris, Donald Trump, va venir ce week-end en France pour la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Ce sera le premier déplacement à l'étranger du président américain élu depuis sa réélection. On appellera tout à l'heure notre confrère Godson Pierre en Haïti du site Alter Press, à la une du site ce mardi, la situation sanitaire. Trop de césariennes en Bolivie, c'est une hausse spectaculaire. Près d'un bébé sur deux naît aujourd'hui par césarienne dans le pays. Et puis on retrouvera comme chaque jour nos confrères de La Première pour l'actualité des Outre-mer. À la une, Serge Massot en Martinique, le leader du mouvement contre la vie chère, condamné pour acte d'intimidation sur des élus.
Oui, ses avocats dénoncent une atteinte grave à la liberté d'expression, une décision accueillie par des jets de bouteilles et de cailloux sur le palais de justice de Fort-de-France hier soir.
A tout à l'heure, Serge Massot. Mais tout de suite, le journal avec Gilles Moreau. Et à la une, les combats qui continuent en Syrie.
Oui, après s'être emparé d'Alep, l'alliance rebelle menée par des islamistes radicaux s'approche de Hama, autre ville importante située dans le centre du pays. Hama relie par la route Alep à la capitale Damas. Les forces du régime tentent actuellement d'en barrer l'accès avec l'appui de l'aviation russe. Elles ont aussi le soutien de milices irakiennes venues prêter main forte à l'armée syrienne. Oriane Verdier, tous ces combattants ont en commun le même grand soutien, c'est bien sûr l'Iran.
Oui, des centaines de miliciens irakiens auraient en effet passé la frontière dans la nuit de dimanche à lundi, selon plusieurs sources militaires et observateurs syriens. De son côté, le chef des forces de mobilisation populaire irakienne a démenti l'envoi de ses forces. Différents groupes de combattants pro-iraniens forment un seul et même axe d'influence de l'Irak jusqu'au Liban, en passant par la Syrie. La présence de miliciens chiites, notamment irakiens, n'est pas nouvelle en Syrie. C'est l'un des moyens de soutien de l'Iran à la Syrie. Et c'est d'ailleurs les premières cibles d'Israël sur le pays. L'armée syrienne, elle, est composée de soldats mal payés et peu motivés à combattre pour un régime qui ne tient debout que par l'appui iranien et russe. Sur le terrain, vous le disiez, l'enjeu est maintenant de contenir l'avancée des forces rebelles menées par le groupe islamiste Ayat Tahrir al-Sham. Les forces pro-régime tente ainsi de sécuriser Hama, la première ville au sud d'Alep. L'arrivée de ces nouveaux combattants ne garantit pas la réussite. Pour autant, le premier grand soutien sur le terrain du régime de Damas est le Hezbollah, aujourd'hui empêtré et fortement affaibli par la guerre menée avec Israël.
Merci pour toutes ces explications, Oriane Verdier. Il avait promis en 2022 de se rendre en Afrique, promesse tenue 2 ans après, alors qu'il est sur le point de quitter la Maison-Blanche. Joe Biden effectue un déplacement en Angola, ancienne colonie portugaise au bord de l'Atlantique. Pour commencer, le président américain a été reçu dans la capitale Luanda par son homologue João Lourenço. Et pendant que Biden est reçu en Angola, le président taïwanais, lui, est arrivé aux îles Marshall dans l'océan Pacifique. C'est la deuxième étape d'une tournée dans la région qui suscite la colère de la Chine, la Chine estimant que Taïwan est l'une de ses provinces. Auparavant, Lei Ching-te avait effectué une escale de 2 jours à Hawaï, État américain.
Au Mexique, c'est une petite victoire pour les droits des migrants.
Des migrants qui redoutent par-dessus tout le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Un arrêt de la Cour suprême du Mexique oblige les autorités à créer un registre pour ces migrants passés par les services d'immigration. Cela fait suite à une plainte déposée il y a 3 ans par 2 associations. Depuis le début de l'année, plus de 900 000 personnes traversant le pays ont été arrêtées. Elles endurent maintenant l'isolement ainsi que le manque de défense juridique. Correspondance à Mexico de Gwendolina Duval.
Le Mexique va enfin devoir changer sa loi sur la migration et créer un registre pour la détention des personnes migrantes sur son territoire. La plateforme devra être accessible au public, elle devra indiquer l'heure et le lieu d'arrêt des personnes par les services de migration mexicains et indiquer les lieux où elles sont transférées. L'idée de cette mesure est d'éviter les arrestations arbitraires et la violence de la part des autorités. Jusqu'ici, il n'y a aucune règle précise qui organise l'arrestation ou le placement des gens dans les centres des services migratoires au Mexique. Les associations dénoncent leur fonctionnement équivalent à des prisons arbitraires. Les migrants n'ayant pas toujours la possibilité de juste passer un coup de fil pour prévenir leur famille, pas de durée précise de détention, leur séjour pouvait durer indéfiniment. Les migrants sont nombreux à dénoncer la corruption des autorités, l'extorsion et les enlèvements. Alors que des millions de personnes fuient chaque année leur pays pour rejoindre les États-Unis, la traversée du Mexique est une étape obligatoire, mais aussi des plus difficiles. Les migrants sont en proie aux persécutions des autorités et des groupes criminels qui en profitent pour alimenter leurs négoces. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
En France, le gouvernement Barnier vit vraisemblablement ses derniers jours.
Le Premier ministre a donc engagé sa responsabilité sur le vote du budget de la Sécurité sociale en vertu du fameux article 49.3 de la Constitution. Le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, a l'intention de voter toutes les motions de censure, la sienne et celle de la gauche, des motions qui seront examinées demain après-midi. Plus de Premier ministre au bout de 3 mois seulement, la fin de l'année qui approche et le budget d'État qui n'est pas été voté encore. Situation politiquement inédite dans l'histoire politique française contemporaine, nous explique le politologue Dorian Dreuil.
Dans la Ve République, il n'y a eu qu'une seule motion de censure qui a été adoptée. C'était en 1962. C'était une motion de censure spontanée pour renverser le gouvernement Pompidou. Donc c'est l'article 49.2. C'est pas la même configuration qu'aujourd'hui avec le 49.3, mais c'est la seule fois dans l'histoire parlementaire française de la Ve République où un gouvernement a été renversé dans un contexte somme toute complètement différent. Et peut-être pour compléter, en cas de chute du gouvernement Barnier, il y a tout un tas de questions qui restent en suspens et sur lesquelles on n'a pas de réponse. C'est-à-dire, est-ce que la crise politique ouverte peut se transformer en crise institutionnelle et dégénérer en crise de régime? Est-ce que, aussi, la crise budgétaire peut évoluer en crise financière?
Analyse de Dorian Dreuil, recueillie par Victorien Vuillaume. Et pendant que la France s'enfonce dans la crise politique, Emmanuel Macron poursuit sa visite d'État en Arabie Saoudite. Un partenariat stratégique qui a été signé par les deux pays. L'ambition est de multiplier les coopérations dans tous les domaines, de la défense à la transition écologique et à la culture. Aujourd'hui, Emmanuel Macron doit clôturer un forum d'affaires franco-saoudien. En marge de ce voyage, pas un instant, il n'a commenté publiquement la crise politique qui secoue la France.
Nous en parlions hier à la même heure. Le procès de l'assassinat de Samuel Paty, il continue devant la cour d'assises spéciale de Paris.
Oui, aujourd'hui, c'est au tour d'Abdelhakim Sefrioui d'être entendu. Cet homme de 63 ans comparé pour avoir confectionné une vidéo dénonçant Samuel Paty. 5 jours après, le professeur d'histoire mourait décapité par un jeune radicalisé. Amélie Beaucourt, vous suivez ce procès. Pour le moment, Amélie, Abdelhakim Sefrioui nie toute responsabilité.
Oui, il dément avec beaucoup d'assurance le rôle qu'on lui reproche d'avoir joué dans cette affaire. Abdelhakim Sefrioui avait voulu aider le parent d'élève, celui qu'on a entendu hier, dans sa démarche pour obtenir une sanction contre Samuel Paty après les fausses accusations de discrimination. Même si la vidéo n'avait pas été diffusée, il se serait produit exactement la même chose, affirme-t-il avec aplomb. D'ailleurs, il rappelle qu'il n'existe aucune preuve qu'Abdullah Kanzorov, le terroriste, l'ait visionné. C'est un homme éloquent, au regard rusé, connaissant le dossier sur le bout des doigts, qui a répondu ce matin aux interrogations du président de la cour d'assises. Un homme qui a réponse à tout et qui sait faire des pirouettes rhétoriques pour esquiver une question l'air de rien. À l'entendre, Abdelhakim Sefrioui est un activiste au service de la justice dans le monde. Pourtant, l'écrasante majorité des témoins qui se sont succédés à la barre la semaine dernière le dépeignent comme un homme coléreux, belliqueux, voire violent. C'est sa propre fille qui sera, au cours de l'enquête, la plus virulente à son sujet. Un père extrêmement sévère et radicalisé dans sa vision de la religion, chose qu'il conteste en tout point. « Je sais que je suis surveillé depuis 1982 », dit-il. « Les renseignements sont venus me voir plusieurs fois et ils n'ont jamais rien trouvé. »
Merci pour ce compte-rendu, Amélie Beaucourt, en direct de la cour d'assises spéciale de Paris. Parti de province hier, le conflit des chauffeurs taxis a gagné Paris. Environ 500 d'entre eux ont manifesté ce matin près de l'Assemblée nationale. Les taxis protestent contre une baisse de la tarification du transport des malades. Enfin, le loup, désormais moins protégé dans l'Union européenne. La convention de Berne qui assure la protection de la faune vient en effet de déclasser son statut de protection. Sous la pression des éleveurs, il passe d'espèces strictement protégé à simplement protégé. Voilà pour ce journal. Je vous laisse en compagnie maintenant de Charlotte Hydrac pour la suite d'RFI Midi.
À tout à l'heure, Gilles Moreau. Et tout de suite, comme chaque mardi, notre rendez-vous avec nos confrères du site Alter Press en Haïti.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
En ligne de Port-au-Prince, bonjour Godson Pierre.
Bonjour Charlotte.
À lire sur votre site Alter Press aujourd'hui, la situation dans les quartiers de Solino et de Nazon à Port-au-Prince. La police haïtienne et la mission internationale d'appui à la sécurité communiquent sur leurs opérations conjointes pour restaurer la sécurité. Mais dans ces quartiers, précisément dans la capitale, l'action des forces de l'ordre se fait toujours attendre. Alors quelle est la situation sur place ?
Eh bien, Anazon et Solino, plusieurs personnes continuent d'être tuées ou blessées par des bandits de Vivre Ensemble, la coalition de gangs qui sème la terreur à Port-au-Prince. Ces personnes sont tuées aussi par des balles perdues. De leur côté, les agents de la police se contentent de rester à bord de leurs chars blindés et de tirer parfois sans arrêt pour dissuader les bandits armés, tandis que les riverains appellent de tous leurs voeux à des opérations sérieuses et efficace au sol, disent-ils, pour démanteler les réseaux criminels. Il en est de même à Pernier, en périphérie est de la capitale et proche de l'académie de police, devenue base opérationnelle avancée de la mission multinationale. Eh bien, depuis de nombreux jours, les habitants lancent en vain des appels au secours à la police.
Le message est donc passé. Vous revenez quand même, Godson Pierre, sur une opération réussie de la police et de la mission multinationale. C'est l'interception d'un camion volé par les membres d'un gang au nord de Port-au-Prince. Comment ça s'est passé, cette opération?
Eh bien, c'était dimanche dernier. Le camion a été détourné par des membres de gang dans l'objectif de bloquer la route nationale numéro 1 reliant la capitale au nord du pays. Après avoir été sécurisé dans un poste de police, le camion a été récupéré et restitué à son propriétaire. Plusieurs bandits ont été blessés lors d'échanges de tirs avec les forces de l'ordre.
Également à la une d'Alter Press, la situation sanitaire en Haïti. Godson Pierre, la majorité des établissements, des centres de santé sont détruits aujourd'hui. Vous donnez la parole à des médecins et ils tirent la sonnette d'alarme sur l'état des hôpitaux de la capitale. Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Eh bien, oui, les spécialistes interrogés craignent une explosion de maladies chroniques en Haïti, alors que le système sanitaire, comme ils le décrivent, est en lambeaux et les déplacements massifs, les conditions de vie de la population infrahumaine n'arrangent pas les choses.
Et puis il y a le risque aussi de la hausse des maladies infectieuses.
Oui, précisément. Le docteur Jean Ardouin Louis-Charles, qui est directeur de l'hôpital du sanatorium fermé comme de nombreux autres, alerte sur le risque de propagation de ces maladies hautement contagieuses et infectieuses. C'est le cas de la tuberculose endémique en Haïti, est classée officiellement grave problème de santé publique. La tuberculose peut prendre une proportion épidémique en Haïti, s'alarme le docteur Louis-Charles. Il a pour argument la difficulté d'administrer dans les conditions actuelles les traitements aux tuberculeux et d'assurer la prise en charge de ces maladies.
Et donc c'est à lire sur votre site alterpresse.org. Merci beaucoup à vous, Godson Pierre. Bonne journée à Port-au-Prince. On poursuit en Haïti avec votre revue de presse. Abla Jounaïdi, bonjour.
Bonjour.
La presse haïtienne revient aussi sur la convocation devant le juge d'instruction de 3 membres du Conseil présidentiel de transition, et cela dans le cadre de l'affaire de corruption à la BNC, la Banque Nationale de Crédit.
Oui, Louis, Gérald, Gilles, Emmanuel Vertilaire et Smith Augustin sont convoqués par le juge d'instruction Benjamin Félix-May. Chaque conseiller devra se rendre à son bureau à des dates différentes de ce mois de décembre, nous apprend le journal Le Nouvelliste, qui a parlé à des sources judiciaires anonymes. Également convoqué, d'après Le Quotidien, l'ancien président du conseil d'administration de la BNC, qui avait accusé les 3 membres du conseil présidentiel d'avoir exigé 100 millions de gourdes pour son maintien à la tête de la banque, détaille Le Nouvelliste, qui rappelle que les 3 conseillers ont toujours clamé leur innocence tout en contestant la compétence du juge compte tenu de leur statut de président de la République.
Abla Jounaïdi, on vous retrouve dans un instant aux États-Unis. On en parlait hier ici même, beaucoup de commentaires, de critiques sur la grâce accordée par Joe Biden, le président, avant de quitter la Maison-Blanche, grâce accordée à son fils Hunter, poursuivi dans des affaires de détention d'armes et de fraude fiscale. Pourtant, il avait dit qu'il ne le ferait pas, et donc ça continue de faire débat. Cette affaire s'est même invitée dans un cadre très feutré à la présentation du décor de Noël à la Maison-Blanche par la Première Dame.
All right, thanks for coming, guys.
Dr. Biden, do you support the pardon of Hunter?
Pardon of Hunter, Dr. Biden.
Voilà, bien sûr, je soutiens la grâce de mon fils dans le brouhaha, c'est ce qu'a dit Jill Biden, donc la première dame, alors qu'elle dévoilait ce décor de Noël. Et la presse américaine revient toujours sur cette affaire, cette grâce de Hunter Biden à Blagenaïli.
Oui, au sein même du Parti démocrate, on comprend la décision sur le plan personnel, mais on s'inquiète des conséquences, rapporte le Washington Post. Le journal a donné la parole à plusieurs élus du camp présidentiel. Pour certains, il s'agit d'un usage abusif du pouvoir. Pour d'autres, un précédent regrettable qui pourrait saper la confiance dans le système judiciaire, tout en fournissant des munitions au président élu Donald Trump pour remanier ce système judiciaire. Tout au long de son mandat, vous l'avez dit, Joe Biden avait repousser l'idée de gracier son propre fils, mais il croit aussi que son fils a été politiquement ciblé. C'est pourquoi il a pris cette décision, rétorque sa porte-parole Karine Jean-Pierre, citée par Politico.
Donald Trump qui vient à Paris ce samedi. Le président élu américain a annoncé qu'il assistera à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'édifice religieux avait brûlé pendant son premier mandat. À Washington, Guillaume Nodin.
C'est sur son réseau social personnel que Donald Trump annonce son voyage dans la capitale française. Il avait participé, à sa manière, à l'émotion internationale autour de l'incendie. En voyant les images à la télévision lors de son premier mandat, il avait suggéré d'envoyer des avions bombardiers d'eau. L'option n'avait pas été retenue par les professionnels qui ont éteint le brasier. Le président élu profite de son annonce pour adresser ses félicitations à son ex et futur homologue français. Le président Emmanuel Macron a fait un travail merveilleux en veillant à ce que Notre-Dame soit restaurée pour retrouver toute sa gloire et même plus, explique Donald Trump. Emmanuel Macron a été l'un des premiers à le féliciter pour sa victoire le 5 novembre. Leurs relations ont connu des hauts et des bas. En 2017, Donald Trump avait beaucoup apprécié son invitation au défilé militaire du 14 juillet, au point de suggérer sans suite que quelque chose d'équivalent soit organisé aux États-Unis. Les choses s'étaient dégradées par la suite, mais Paris sera tout de même le premier voyage à l'étranger de Donald Trump depuis qu'il a remporté l'élection présidentielle américaine. Jusque-là, ce sont surtout des dirigeants étrangers qui ont fait le déplacement à Mar-a-Lago. À la Maison-Blanche, la venue de la première dame Jill Biden est annoncée, pas celle de son mari, le président en exercice Joe Biden. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et pour la presse américaine, à Blagenaïli, cette première visite à l'étranger du président élu démontre que le monde en fait a déjà tourné la page de l'ère Biden.
Oui, le voyage est préparé depuis plusieurs jours et le président élu a échangé au téléphone au moins une fois avec Emmanuel Macron, rapporte le New York Times. Emmanuel Macron a été le premier dirigeant étranger à féliciter Trump après sa victoire, rappelle Politico. CNN se souvient que peu de dirigeants étrangers ont fait autant pour courtiser Trump lorsqu'il était le 45e président. Le voyage promet tout ce que le président élu chérit le plus, la chance d'être le centre de l'attention, l'adulation d'être un invité d'honneur et la fanfare d'un spectacle unique devant des millions de personnes à travers le monde, résume le média américain qui relève l'ironie de la situation. Un président français dont le gouvernement est menacé de censure à l'Assemblée. Il y a de plus en plus de signes que l'héritage de Macron pourrait ressembler à celui de Joe Biden, un président contraint de céder le pouvoir aux forces nationalistes et populistes contre lesquelles il se promettait de combattre.
Alors pendant ce temps, Joe Biden est encore en place et il effectue ce qui sera sans doute son dernier voyage à l'étranger, c'est en Afrique.
Il s'était engagé à cela en 2022. C'est donc une tournée de 3 jours en Angola qui a débuté dimanche. Au programme, la visite d'un musée de l'esclavage et la mise en lumière d'un corridor ferroviaire, détaille le New York Times. On attend aussi une série d'investissements dans la santé mondiale, l'agriculture et la coopération en matière de sécurité. Cela afin de prouver l'engagement de l'administration américaine. Des engagements dont la durée dépendra aussi de la volonté de son successeur, Donald Trump, qui avait jadis dénigré les nations africaines, rappelle le quotidien américain.
Tout à fait. Alors maintenant, on part, excusez-moi, petite faute, moment d'inattention. On part maintenant à Cuba, avec la presse cubaine en exil plus précisément. Et à la une de cette presse cubaine en exil, le visage de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, qui est décédé dans les geôles du régime castriste.
Oui, il avait 30 ans, Charlotte. Guillén Esplugas purgeait une peine de 6 ans de prison pour avoir filmé et diffusé des vidéos des marches anti-gouvernementales de juillet 2021. Il est décédé samedi des suites des coups qu'il a reçus en prison, rapportent les ONG Justicia Once de Julio et Cuba Décidé, dont il était l'un des animateurs. Pour le média Cubitana, où le jeune homme rejoint la longue liste des morts de prisonniers politiques, rien qu'au premier semestre de cette année, il y en a eu au moins 26, selon l'ONG Cubalex, citée par Cybercuba. Les ONG parlent d'assassinat et demandent une enquête indépendante et approfondie pour clarifier les circonstances du décès. Les tribunaux avaient rejeté 2 recours déposés par son avocat, rapporte le média 14 y medio. Les conditions dans les prisons cubaines restent alarmantes avec des preuves de torture, de traitements inhumains et un manque cruel de soins médicaux, déplore encore l'ONG citée par Cybercuba.
Abla Junaïdi, votre revue de presse d'Haïti et des Amériques à retrouver sur RFI.fr. 9h20 presque à La Paz en Bolivie.
RFI La radio del mundo.
La Bolivie, où près d'un bébé sur deux naît aujourd'hui par césarienne, près de 50%. Le taux, pourtant, était de moins de 15% en 2008. Et sachant que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise un taux maximum de 15% de césarienne. Alors pourquoi ce taux est-il si haut en Bolivie, parfois perçu comme plus sûr, entre choix assumés de certaines femmes et pression de certains établissements de santé? Reportage à la page. Signé Camille Bouju.
Des femmes qui craignent la douleur, des médecins qui ajustent leur emploi du temps et une opération présentée comme plus sûre et plus pratique. En Bolivie, le nombre de césariennes injustifiées explose. Au cours des 15 dernières années, le nombre de bébés nés par l'opération est passé de 15% recommandé par l'OMS à presque 50%. Pour Fatima, cette décision lui a été imposée dès le début de sa grossesse.
Quand j'ai commencé à m'informer, je me suis heurtée à un système médical qui vous pousse clairement à vous faire opérer avec différents arguments. D'abord, ils vous disent qu'ils ne savent pas si vous allez supporter la douleur ou si toutes les conditions vont être remplies.
Son expérience n'est pas unique. Nombreuses sont les femmes qui décrivent un environnement médical qui pousse vers la césarienne. Mireia, elle aussi, a ressenti cette pression au point de se demander si l'intervention était vraiment nécessaire.
J'ai accepté parce qu'ils ont dit que mon bébé allait mourir, mais je ne suis pas sûre que c'était nécessaire. Je me suis sentie trompée. Certaines infirmières ont dit qu'elles faisaient des césariennes exprès, que comme nous avons une assurance payée par le gouvernement, elles pourraient gagner plus d'argent en pratiquant des césariennes plutôt que des accouchements naturels.
Sur les pages en ligne des cliniques, il n'est pas rare de voir des promotions pour cette intervention. Mais si le facteur lucratif revient régulièrement, il n'est pas unique et la rentabilité ne réside pas seulement dans le prix en tant que tel, comme l'explique le docteur Bremen de Mucio de l'Organisation mondiale de la santé.
Pour les professionnels, il est beaucoup plus facile de faire une césarienne. D'autre part, l'une des raisons est liée au mode de vie. Tout doit être immédiat.
Une césarienne en tant que telle dure en moyenne de 30 minutes à 1 heure. En comparaison, un accouchement naturel dure généralement entre 8 et 14 heures. En plus d'être plus rapide, cette intervention est aussi présentée comme une option moins douloureuse. C'est l'argument qui a convaincu Pamela.
Depuis toute petite, j'ai toujours su que je voulais faire une césarienne parce que je paniquais à l'idée d'avoir un accouchement normal. Quand je suis allée voir le médecin, je lui ai tout de suite dit. Ce n'est que récemment que je me suis rendu compte qu'il ne m'avait pas parlé des risques que je pouvais encourir.
Aujourd'hui, le droit au choix est mis en avant pour les femmes souhaitant accoucher par césarienne. Mais ce choix reflète parfois une information incomplète ou orientée. Or, ce n'est pas une intervention anodine. L'opération comporte des risques. Mireia, par exemple, souffre encore des conséquences de sa césarienne qui a eu lieu il y a 4 ans.
Ils m'ont écrasé les côtes. Depuis, je ne peux plus porter de charges lourdes.
Pire, une césarienne de routine présente un risque de mortalité plus élevé qu'un accouchement normal. Pourtant, sous conseils médicaux, certaines femmes sont persuadées que cette opération est plus sûre. Aberinga, par exemple, a cédé par crainte pour son bébé.
J'ai eu peur parce que j'avais très peu de connaissances. Donc j'ai accepté qu'on me programme une césarienne. Mais je crois que ce n'est pas quelque chose qui devrait se planifier à l'avance.
Autre point intéressant, bien qu'aucune étude ne justifie clairement cette hausse, il apparaît que le recours à la césarienne est lié au niveau de revenus et d'éducation des femmes. C'est notamment ce qu'a observé le docteur Bremen de Mucio.
Plus le revenu de la femme ou de son groupe familial est élevé, plus le risque de césarienne est élevé par rapport aux femmes les plus pauvres. Alors que dans un hôpital qui traite des femmes à faible risque, il est pratiquement inacceptable qu'il y ait plus de césarienne que d'accouchement parce que ce n'est pas naturel.
Une question demeure, jusqu'où ira cette augmentation et à quel prix pour les femmes et la santé publique en Bolivie? Camille Bouju, La Paz, RFI.
RFI, 14h24, ici à Paris, on retrouve tout de suite nos confrères de La Première pour l'actualité des Outre-mer.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on en parlait tout à l'heure, en Martinique, la condamnation du leader du mouvement contre la vie chère, condamnation à 10 mois de prison.
Oui, une peine aménageable avec bracelet électronique. Rodrigue Petitot a donc été condamné pour un acte d'intimidation vers des élus. Dans une vidéo, il avait appelé les maires à fermer leur mairie pour demander le départ du préfet. Mais pour ses avocats, c'est la liberté d'opinion qui est attaquée. Écoutez Maître Germani, il est au micro de Pierre-Yves Honoré de Martinique La Première.
Il faut du courage ou de la mauvaise foi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut un certain aplomb pour mentir à ce point comme... l'a fait le parquet en prétendant que ces attaques dont on parle n'étaient pas politiques. Maintenant, on attend de voir la décision dans son détail, mais une chose est certaine, c'est qu'on ne va pas en rester là, on ne va pas accepter que pour un propos politique, un homme reste en prison et que la Martinique accepte qu'il existe sur son sol un prisonnier politique. Ça, ce n'est pas admissible, ce n'est pas acceptable. Et ça devrait normalement être combattu d'abord par les magistrats.
Une décision qui a provoqué des jets de bouteilles et de pierres hier soir sur le palais de justice de Fort-de-France. Le parc zoologique de Paris travaille à la réintroduction du lamantin des Antilles, une espèce vulnérable dans la baie de Grand'Anse, en Guadeloupe. La précédente tentative avait échoué. Cette fois, les espoirs reposent sur Ounaï, une femelle lamantin locataire du parc zoologique de Paris. Julien Babel de Guadeloupe la première.
Précaution donc, Paris offrira un support scientifique et accompagnera les équipes ici pour réapprendre la cohabitation avec l'espèce. Et puis du temps, la piste mexicaine est envisagée un temps par la direction du parc national pour des lamantins nés en milieu naturel, mais le projet devrait prendre une autre direction, notamment avec le concours d'Ounaï, femelle d'un peu plus de 2 ans arrivée en mars 2024 à Paris dans une ambition d'élevage. Les naissances à venir pourraient donc contribuer à la réintroduction du lamantin dans nos eaux. En revanche, c'est un cheminement long. La femelle lamantin ne donne naissance qu'à un veau tous les 4 à 5 ans, après plus d'un an de gestation.
Et puis un retour aux sources pour l'habitation Saint-Léon à Pointe-Noire en Guadeloupe. À l'origine, au XVIIIe siècle, cette exploitation cultivait du café, du cacao et de la vanille. Désormais, le propriétaire a décidé de mettre à disposition ses 150 hectares pour développer l'agroforesterie de l'île. Témoignage de Francine Dragon.
Je n'ai pas de base agriculture, je n'ai pas eu de formation ou quoi que ce soit. Par contre, je suis consciente de l'environnement qu'on a et de la chance aussi qu'on a de pouvoir avoir à disposition la nature. D'où le projet de pouvoir planter des arbres fruitiers, les cultiver et de faire des fruits déshydratés ainsi qu'au niveau des feuilles médicinales, de pouvoir aussi les sécher, les vendre pour qu'on puisse améliorer notre santé.
Votre lot, il est situé où ?
Dans les hauteurs, c'est le numéro 23. Mmh. Donc c'est vraiment tout en haut et ça va être tout nouveau, c'est une aventure, mais je suis prête pour tout ce qui va. Il y aura les hauts, des bas, il y aura des difficultés, mais il y aura aussi des choses qui seront merveilleuses à vivre. Et donc, voilà, je suis prête pour ça.
Des propos recueillis par Josiane Champion de Guadeloupe la première. C'est la fin de ce journal. Bonne journée sur RFI.
Merci beaucoup à vous, Serge Massot. Et on discutait justement dans le studio du fait que le bébé du lamantin s'appelle le veau. Très bonne journée à vous et à demain. Son nom ne l'indique pas, mais c'est le groupe français Stuck in the Sound pour nous accompagner jusqu'au prochain journal avec le morceau Le Soleil. Ils seront en concert ce soir à Mexico. Soleil qu'on n'a pas vraiment en ce moment à Paris, mais le cœur y est, titre du groupe français Stuck in the Sound. Merci d'avoir été avec nous pour RFI Midi. Merci à Vincent Biteau en régie, rédaction en chef Emmanuel Klotz et Mouna Elbana. Dans 15 secondes maintenant, on vous retrouve Pascal Paradou pour votre émission De Vive Voix et vous recevez aujourd'hui Rodolphe Burger. Bonne émission, à bientôt.
RFI Midi.